En 1948, l'historien Arnold Toynbee achevait son monumentale histoire de l'humanité. Il regardait vers les années à venir, jusqu'à la fin de l'an 2000 et même jusqu'au début de ce troisième millénaire, en se demandant quelle serait la condition de l'homme et surtout de l'homme occidental. Il a annoncé, en réfléchissant à sa connaissance de l'histoire, que l'homme, cet homme, serait caractérisé par l'anxiété, l'irrationnel, le désespoir. On pourrait penser, voilà un homme bien pessimiste, et pourtant, c'est du réalisme. Voilà que l'homme d'aujourd'hui, effectivement, montre cette anxiété, cet irrationnel et ce côté désespéré. Et pourtant, dans cette analyse et dans cette réflexion de Toynbee, il y a quelque chose qui manque de très important, un élément fondamental, c'est l'intervention de Dieu dans l'histoire. Qu'arrivera-t-il dans le troisième millénaire ? Qu'arrivera-t-il dans les années à venir ? Dieu peut-il encore agir, providentiellement ? Bien sûr que oui. L'action de Dieu à travers l'histoire des hommes est constamment devant nous à travers les Écritures. Dieu renverse les pronostics humains. Il renverse nos mauvaises prophéties. Il renverse ce que nous croyons qui va arriver. À l'époque du déluge, Dieu a renversé les pronostics. Comment ? Il a sauvé une famille d'un déluge universel. Et à travers cette famille, l'humanité a pu rester, a pu continuer. À travers Abraham et Sarah, un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants, voilà qu'il a suscité tout un peuple et le Sauveur. Et à travers l'histoire de l'Égypte, qui aurait pu parier sur le peuple d'Israël, qu'il aurait pu se libérer d'une telle puissance et devenir lui-même un grand peuple? Qui aurait pu parier pour David contre Goliath? Nous sommes dans un combat spirituel. Dans ce combat spirituel, nous luttons. Mais Dieu est avec nous. Et aussi, nous ne luttons pas avec des armes humaines, mais avec les armes de Dieu. Ainsi nous dit l'apôtre Paul en Éphésiens 6, verset 10, que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour résister contre le malin, pour résister contre les ruses du diable. En effet, le diable est rusé. Il est un adversaire malin et il a toutes sortes de leurres, toutes sortes de tromperies. Il est comme un lion rugissant, nous dit l'apôtre Pierre en 1 Pierre 5, verset 8. Et il nous dit que nous devons lui résister avec une foi ferme. Nous trouvons, déjà maintenant, face à trois défis. Le défi du mensonge, et le défi pour maintenir la vérité. Le défi du péché, le défi pour maintenir la sainteté. Enfin, le défi de la mort, qui est aussi le défi pour appréhender la vie éternelle en Jésus-Christ. Ces trois défis, le mensonge, le péché et la mort, sont des adversaires qui ont toujours existé. Mais à travers les siècles, ils mettent des masques, ils se protègent pour ne pas être reconnus, tels des stratèges militaires, tels ces animaux qui se déguisent pour se défendre, qui donnent l'illusion de ce qu'ils ne sont pas, tels ces insectes qui deviennent soudain une branche, une feuille, ces oiseaux qui se gonflent pour impressionner leurs adversaires. Les masques du mensonge, les masques du péché, les masques de la mort spirituelle changent selon les époques, mais nous devons à reconnaître ces masques si nous voulons gagner dans cette bataille. Quel est le masque du mensonge aujourd'hui, derrière lequel se cachent le mensonge et l'erreur? Bien, c'est le masque de la relativité. Cette notion moderne est tout à fait fausse, que tout est relatif, en particulier dans les questions morales et spirituelles, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Cette idée de relativité qui promet la paix, la tolérance et le bonheur, mais qui ne peuvent faire aboutir à ces choses. Le plus grand défi des croyants à travers les temps a toujours été le maintien et la défense de la vérité. Éphésiens 4, versets 14 et 15. Nous devons lutter pour maintenir la vérité et nous devons parler de la vérité avec amour. Le combat pour la vérité est au cœur de tous nos autres combats. C'est le combat fondamental. Einstein a parlé, bien sûr, de la relativité. Mais il ne voulait pas entendre par le mot relatif ou relativité opposé de ce qui est absolu. Il voulait parler simplement d'une relation. Le mot relatif, dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a une relation étroite entre le temps, l'espace, la masse et l'énergie. Relation qui fut exprimée dans une équation mathématique. Et même cette équation, d'ailleurs, n'est pas relative. On ne peut pas la changer comme l'on veut. Cette relation reste absolue. Elle est elle-même, elle a une valeur absolue. Et ces hommes de science Ils ont le respect des valeurs absolues. Ils ont le respect des règles et des formules qui sont indispensables. Indispensables pour fabriquer des bons pneus, pour fabriquer des ascenseurs. Personne n'a envie de rouler avec des pneus relativement fiables ou de monter dans des ascenseurs qui montent ou qui descendent relativement. Et pourtant, quand il s'agit des questions importantes du salut, de la vie éternelle, de ce qui est bien ou mal, juste ou injuste, vrai ou faux, quand il s'agit de la vie de nos familles, alors tout est relatif. Et même parfois les croyants ont avalé la pilule de la relativité. En 1989, déjà, l'Institut Gallup faisait un sondage. 70% des personnes interrogées étaient convaincues qu'il n'y a pas d'absolu dans les questions morales, spirituelles, religieuses. Aux États-Unis, où la pratique religieuse est grande, 53% des croyants pratiquants ne croient pas en une vérité absolue. En France, un sondage du journal La Croix indiquait que 40% des catholiques pratiquants se disent athées. Cela montre que le problème de la vérité se pose, qu'il y a une incohérence même chez les croyants en raison de cette idée de relativité. Face à ce défi, à ce premier défi, ce mensonge qui se déguise sous la relativité, nous devons affirmer que cette pensée de la relativité, elle ne tient pas, elle est contradictoire, elle est illogique. Deuxièmement, notre vision du monde doit être cohérente avec notre foi, avec notre conviction. Et troisièmement, notre action doit être cohérente avec cette vision du monde. Ainsi, nous lutterons contre cette idée erronée de la relativité. Le deuxième défi que nous aurons à relever, c'est celui du péché, défi éternel bien sûr, celui du combat pour une vie sainte. Le défi du péché est lié au défi de la relativité, le masque du mensonge. En effet, le rejet de la vérité n'est pas sans conséquence. Qui dit absence de vérité absolue, dit absence de vérité, absence de règles pour la morale sexuelle, absence de règles pour traiter les affaires, pour diriger les peuples, pour la vie familiale, pour la vie du couple, pour la vie d'église même. L'autorité, par exemple, du Nouveau Testament est contestée même chez certains croyants. Comment peut-on être chrétien et ne pas croire à l'autorité des épîtres du Nouveau Testament? Cela ne me semble pas possible. Mais il y a quelque chose de plus grave, car le masque du péché, le péché se cache aujourd'hui, pas simplement par un manque de valeurs, un manque de cohésion des valeurs, mais par l'inversion même des valeurs. Ce que dit le prophète Ésaïe déjà, en Ésaïe 5, verset 20, « Ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. » L'homosexualité, péché condamné dans la Bible, n'est plus un péché aujourd'hui, mais une qualité. Celui qui défend cette position, il lutte pour une cause juste. L'avortement est devenu l'expression d'un droit humain légitime. On va se vanter, on va se louer de cette pratique même. Richard Wurmbrand, qui était confiné dans une cellule par Ceausescu en Roumanie pendant des années, a dit ceci concernant Genèse 3:15. La postérité de la femme doit écraser la tête du serpent, selon cette prophétie. Mais nous, avec Jésus-Christ, qui est à notre tête, qui est la postérité du serpent, que faisons-nous en tant que croyants? Eh bien, souvent, il dit, l'homme se contente de chatouiller le ventre du serpent, ce qui le fait bien rire, au lieu de lui écraser la tête par la foi, par la vérité. Dans le spectacle Notre-Dame de Paris, le chef des brigands est présenté comme l'homme de bien. Pourquoi? Car il ne défend aucun ordre moral. Bien sûr, cette idée n'est pas chez Victor Hugo. Ceux qui défendent un ordre moral sont les méchants, alors que Victor Hugo condamne l'hypocrisie religieuse, mais il ne glorifie pas le brigandage ou le meurtre ou l'immoralité. Face à ce deuxième défi, le défi de l'inversion des valeurs, quand ce qui est mal devient bien, et aussi quand ce qui est bien devient mauvais, eh bien, nous devons avoir une position claire, inéquivoque, en particulier dans les questions qui touchent à la morale sexuelle. Nous devons aussi appliquer la discipline biblique du Nouveau Testament sur ces questions. Nous devons aussi comprendre que le problème du péché est d'ordre moral, mais aussi qu'il est le résultat d'une vision du monde et de l'homme. La repentance implique une nouvelle manière de penser. La repentance est un défi intellectuel. Le troisième défi auquel nous devrons faire face est celui de la mort. Bien sûr, défi éternel. Le masque de la mort, c'est aujourd'hui une médecine mal comprise, mal appliquée. Ces corps, nous nous préoccupons de la mort physique, à tel point que nous ne pensons plus à la mort spirituelle, ou que nous croyons que la médecine de ce monde peut guérir le cœur, peut guérir l'âme et les problèmes spirituels. Le combat de la médecine est un combat légitime, mais ne doit pas occulter la réalité de la mort, de la vieillesse, et aussi de la mort spirituelle qui est une réalité. L'illusion qu'un jour nous réglerons le problème de la mort en dehors de Dieu, par exemple par la médecine, est bien une illusion. La foi en la médecine est telle en France que nous sommes les premiers consommateurs de tranquillisants au monde. Nous pensons aussi à l'appel au médecin pour tous les maux de l'existence. Le médecin remplace le curé. Le médecin, il donne les solutions à tous les problèmes de la vie. Il va aider dans tous les problèmes. Mais comment va-t-il le faire? Bien souvent, simplement, en donnant un tranquillisant, en donnant du Prozac. Face à ce défi, cette médecine qui promet, ou nous pensons qu'elle nous promet toutes les solutions à nos problèmes, eh bien, nous avons deux choses à faire. Nous devons mettre l'accent sur l'espérance. Dans notre témoignage, nous devons enseigner et nous devons prêcher l'espérance. Comme le disait Jürgen Moltmann, le XXe siècle a surtout besoin d'une théologie de l'espérance. Et ce sera vrai aussi pour le XXIe siècle. Et une deuxième chose, qui dit accent sur l'espérance, dit aussi qu'il faut mettre l'accent sur la joie, fruit de l'espérance. La joie qui peut même être là et qui doit être là, au milieu de l'épreuve, au milieu du deuil, au moment d'un enterrement. La joie de l'espérance, la joie de la vie éternelle, elle doit être manifestée et elle sera témoignage dans ce monde. Le culte chrétien lui-même doit exprimer cette espérance dans ce qui est dit, dans ce qui est fait, dans la louange. Le culte chrétien doit souligner la joie, que ce soit dans la louange, dans le repas du Seigneur ou dans la prédication. Oui, nous sommes face à ces trois défis, à ces trois masques aussi, comme je l'ai dit. Ce défi qui est très important, le premier défi que nous avons mentionné, et ces trois masques que nous avons mentionnés, eh bien nous devons les relever, le défi du mensonge. Ce mensonge, aujourd'hui, qui se cache sous la relativité, le défi du péché, qui se cache sous l'inversion des valeurs, et le défi de la mort, qui se cache sous les illusions, les promesses illusoires de la médecine, qui ne pourront pas régler les problèmes spirituels, car seul l'Évangile peut le faire, car l'Évangile est la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, et reste la puissance de Dieu, et elle sera la puissance de Dieu au troisième millénaire. Que Dieu nous aide à relever ces trois défis, qu'il nous donne les armes dont il parle en Éphésiens 6 et verset 10, qu'il nous donne de savoir ne pas tomber dans les pièges du diable, dans les pièges de ce lion qui cherche à dévorer qui il peut. Que Dieu nous donne cette force. Amen.